tous les cinémas du monde. Sophie Torlotin, Elisabeth Le Quéret.
Personnalité exceptionnelle, générique extraordinaire. Bonjour Elisabeth.
Bonjour Sophie, bonjour à toutes et à tous.
Ses collaborateurs l'appelaient avec déférence maestro. C'est même ainsi que l'on fait désormais référence à ce grand nom de la musique de film. Vous aurez sans doute reconnu quelques-unes de ses partitions célèbres dont s'est servie notre réalisatrice Fanny Renard pour ce générique. Ce grand nom de la musique tout court du XXe siècle. On l'appelle donc maestro ou même tout simplement par son prénom, Ennio. Ennio, c'est le titre du nouveau film, un documentaire de Giuseppe Tornatore, le réalisateur italien de Cinéma Paradiso, entre autres. Il a suivi pendant 5 ans l'immense Ennio Morricone de 2015 à l'année de sa mort en 2020. Et il a rencontré d'illustres admirateurs, de Bruce Springsteen à John Baez, en passant par Quentin Tarantino, Clint Eastwood, John Williams ou Dario Argento. Ce documentaire de plus de 2h30 est actuellement en salle. À nos côtés, pour parler du maestro, deux moriconologues émérites. Stéphane Lerouge, bonjour.
Bonjour Sophie.
Vous dirigez la collection Écoutez le cinéma chez Universal et vous avez édité deux coffrets Ennio Morricone, soit 32 CD. Un travail colossal et délivré avec des entretiens inédits. Et notamment l'ultime interview d'Ennio Morricone par vos soins. Alex Jaffray, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chroniqueur musical, compositeur, concepteur de design musical, comme en témoigne normalement le générique habituel de tous les cinémas du monde.
C'est vrai,
c'est
sauf
vous
le jour où j'y suis,
qui en êtes
l'auteur.
C'est extrêmement
drôle.
Frustrant.
C'è il drammatico e il divertente e gli piacco moltissimo.
Voilà Ennio Morricone qui imite le cri du coyote, ce qui lui a donné ensuite l'idée donc d'un des thèmes du Bon, la Brute et le Truand. C'est l'une de ses bandes originales célébrissimes du western de son compatriote Sergio Leone. C'est l'un des passages amusant, étonnant de ce documentaire Fleuve. Je ne sais pas s'il l'imitait souvent, Alex Jaffray, Stéphane Lerouge, là, le coyote. Non, il le faisait souvent. Vous l'avez rencontré tous les deux.
Moi, je pense vraiment que c'est la chance de ce documentaire, c'est que c'est la première fois dans l'histoire du cinéma et de la musique qu'on voit un documentaire, un portrait d'un compositeur tourné par un cinéaste qui par ailleurs est un cinéaste de fiction, c'est pas un documentariste professionnel, mais un cinéaste avec lequel le dit compositeur travaille depuis 30 ans. Donc il y a un rapport d'intimité, de confiance, et je pense que s'il fait le cri du coyote, c'est parce que précisément il a devant lui les caméras de Tornatore.
C'est vrai, l'ayant rencontré tous les trois autour de la table plusieurs fois, j'ai eu la chance de passer d'un seul coup, de changer de niveau, et que le jour où son manager me dit « Ah, tu es le journaliste qui a fait rire le maestro. » Tu sais, tu sais que de tous les journalistes qui sont passés, il a jamais ri, et que là, j'étais venu avec un petit sampleur et ça l'avait amusé. Donc effectivement, c'est assez rare. Et je crois que ils ont fait 11 ou 12 films ensemble avec Giuseppe Tornatore. Oh,
13.
13
ouais, je crois.
Il y en a un que j'ai pas vu. Alors.
Il n'est pas sorti dans ton quartier. Ouais.
Et c'est vrai que je pense que c'est ça qui crée... parce qu'en fait, je crois qu'il y a une grande timidité. Tout le monde pense qu'il est extrêmement sévère. Je pense qu'il est surtout extrêmement timide.
Non, on disait qu'il avait il pouvait piquer des colères. Il n'était pas commode. Alors, il se trouve que je l'avais rencontré également, mais... pas aussi souvent que vous, Stéphane Lerouge et Alex Jaffray, en 2007. Et ses collaborateurs m'avaient recommandé de ne pas lui parler des westerns, de la musique de western. Alors, moi, je l'avais rencontré dans un salon de l'aéroport de Roissy où il était, je crois, il devait aller au festival
d'Auxerre en 2006.
D'Auxerre, c'est ça. Et j'avais dû biaiser et lui demander comment il concevait son travail, ses relations avec les réalisateurs.
Tanto c'est le film et les discours du regista qui comptent beaucoup, parce que le regista...
La relation entre un metteur en scène et un compositeur est très spéciale. J'aime bien travailler sur des films différents, avec des réalisateurs différents, ça me stimule. J'écoute beaucoup ce que me dit le réalisateur, mais certaines fois, le metteur en scène sort des absurdités.
Au début,
je me fâchais. Et puis, je me suis rendu compte que ces demandes absurdes pouvaient aussi me stimuler. Alors, cela dit, ma musique est encore meilleure quand le metteur en scène me laisse carte blanche.
C'est quoi, par exemple, des choses absurdes? Qu'est-ce qui peut sembler absurde?
Au tout début de ma carrière, le réalisateur italien Luciano Salce m'appelle pour son film La Cucciana. Il me raconte une scène du film où on voit de pauvres gens, dont un homme veuf, malade, triste. Il me parle pendant une demi-heure de cette scène-là. Alors moi, je note tout. Et puis quelques jours après, pendant les rushs, je vois la scène monter et elle ne fait que 20 secondes. 20 secondes. Alors du coup, j'ai écrit un thème très court, très simple, de 20 secondes.
Poi andiamo a vedere la lunghezza del pezzo, erano 0,20 secondi. Io naturalmente non ho obiettato niente perché allora non ero in grado di capire che stupidaggine era tener conto di tutti quei discorsi. E allora ho scritto un pezzo che era... C'era tutto quello che dice che ha detto, ma non si capiva niente.
Ma c'était une erreur, car j'aurais dû penser au film entier, pas seulement à cette scène.
Per cui dice che c'entra. Ecco, lì ho capito che nel cinema bisogna puntare su una sola cosa.
C'est pas trop pas discret, parce qu'on vous a vu, Monsieur Morricone, griffonner quelques mesures. Est-ce que c'est, on parlait d'inspiration tout à l'heure. Est-ce que voilà.
Perché mi hanno visto perché scrivevo. Ma io stavo, mi era venuta un'idea.
Non, j'ai une idée pour la musique du film sur laquelle je travaille en ce moment.
C'est-à-dire que vous composez, vous n'avez pas besoin du support d'un instrument.
Non. Vado qualche volta per controllare.
Bah non, personne ne devrait avoir besoin du piano pour composer. Moi, je l'utilise quand ma partition est terminée et que je veux la tester sur ma femme, par exemple, ou sur le metteur en scène, évidemment.
Nessuno dovrebbe avere bisogno del pianoforte. Uno scrittore per scrivere.
L'écrivain n'a pas besoin de parler à voix haute pour écrire.
Che vuol scrivere.
Voilà, Ennio Morricone en 2006, c'est vraiment une forte personnalité. Les réalisateurs, ils allaient le voir, lui en posaient rien. Et lui, il composait tout le temps. Vous en témoignez l'un et l'autre, Alex Jaffray, Stéphane Lerouge.
J'ai toujours l'impression que justement, le génie de Morricone, c'est que c'est un compositeur qui aurait voulu être un symphoniste néo-dodécaphonique, être Berlioz, Dalla Piccola et Nono, et que finalement il n'a pas pu, il était d'origine, on le voit dans le documentaire, d'un milieu social modeste, et qu'il a dû très vite faire vivre sa famille, et que finalement dans la contrainte des arrangements de variété d'abord, et après du cinéma, il n'a pas renoncé à lui-même, il a ajusté son lui-même aux demandes des autres, et c'est dans cette négociation avec lui-même, et pour correspondre aux attentes des cinéastes et aux besoins des films, qu'il a été immense, quoi, précisément.
Je trouve qu'il y a, en voyant le documentaire, il y a quelque chose de commun qui apparaît entre Gainsbourg et Morricone. Tous les deux avec une vision et une envie, par exemple, d'être compositeur ou d'être peintre. Et puis d'un seul coup, la contrainte fait que ils n'ont pas le talent vocal nécessaire pour être un grand chanteur comme à l'époque. Donc Gainsbourg le disait lui-même, pour lui, la musique et la chanson, c'était un art mineur. Et c'est vrai que Morricone, attendant l'aval de ses maîtres, on le voit dans le documentaire, c'est terrible. C'est poignant au possible de le voir comme ça, attendant toute sa vie, en tout cas une partie de sa vie, l'aval et la reconnaissance de ses maîtres, et qui disent mais non, la musique de film, c'est vraiment superficiel.
Il utilise le mot humiliation au départ, quand il commence la musique de film. Pour lui, il a l'impression de faire un travail de mercenaire, quoi. Et un de ses condisciples du conservatoire, qui s'appelle Boris Porena, qui est un très vieux monsieur, dit « C'est vrai, on a été un peu cruel et injuste avec lui, mais quand j'ai vu en 1984, il était une fois en Amérique, je me suis aperçu que c'était quand même un très bon compositeur. Mais on est en 84, Morricone était déjà là depuis 24 ans.
Les mecs sont en duplex. Non, mais clairement, c'est terrifiant. Il fait oui, oui. C'est... Alors, tu dis, il a écrit des mélodies incroyables. Ce qui est terrible, c'est qu'on voit dans ses maîtres, et je trouve que ce qui se passe parfois dans la musique contemporaine, c'est le côté niche et le côté un peu ayatollah et extrémiste.
Un snobisme, peut-être.
Voilà,
non,
genre, oui, c'est parce que la mélodie est trop facile, parce que non, on va créer justement 2h35 de musique sans une mélodie qu'on puisse.
C'est quand même l'air de la musique abstraite aussi, peut-être, non ?
Oui, oui, mais en même temps, je pense que ça lui a servi, ça lui a permis de mettre des instruments saugrenus dans ses musiques, que ce soit des guimbards, des cridiennes et des choses comme ça. Je pense que ce qui est intéressant, c'est que son parcours fait qu'il y a un seul Ennio Morricone, mais ce qui est terrible, c'est qu'il a attendu si longtemps cette reconnaissance.
Et moi, je pense d'ailleurs que lors de ce dernier entretien, donc c'était en 2019, c'était quelques mois avant sa mort, il faisait toujours cette séparation que moi je trouve un peu artificielle entre musique absolue et musique appliquée. Et pour lui, la musique de film, c'était de la musique appliquée. Mais je lui dis, mais Ennio, quand vous dirigez, vous faites des tournées à travers le globe, la planète, vous dirigez vos musiques de film sans support de l'image, comme de la musique vraiment pure, est-ce que votre musique de film n'est-elle pas devenue une forme de musique absolue ? Il m'a dévisagé à travers ces gros hublots comme ça à la Jacques François. Il m'a dit peut-être, mais il n'a pas développé.
pardon, Elisabeth.
On a l'impression, en fait, parce qu'il a quand même composé 500 bandes originales
23.
De films.
523.
Ouais. Merci aux spécialistes que vous êtes. Et du coup, on se dit, mais cet homme, en fait, est-ce que c'est ça, quoi ? C'est-à-dire, il compose comme il respire. Il y a une personne qui dit dans le documentaire que c'était comme s'il écrivait des lettres.
Oui, mais enfin, c'est
une posture.
C'est une vie aussi, c'est-à-dire que c'est une vie où, par exemple, d'abord, il n'a jamais fait l'apprentissage d'une langue étrangère. Il pensait que ça aurait été du temps volé à l'écriture. Il a toujours refusé d'aller s'installer dans un autre pays que l'Italie. Il est resté, sa musique a contaminé la planète, mais il est resté romain jusqu'à la moelle, jusqu'au globule. Et avec une hygiène de vie, on le voit dans le documentaire, réveil à 6 heures, gym, lecture de la presse quotidienne.
Comme un athlète.
Et il écrit. Et quand il faisait des concerts à l'étranger, sa femme parfois lui disait, mais écoute, on est à Londres, on passe en 2 jours pour faire des musées, visiter. Non, le lendemain, il prenait le premier vol retour pour recommencer l'écriture immédiatement, quoi.
Alors, vous l'aviez dit, Stéphane Le Rouge, Alex Jaffray, Ennio Morricone, il a étudié donc comme un musicien classique. Enfin, il était fils d'un trompettiste de jazz qui l'a obligé à suivre des études de musique. Lui, il rêvait de faire médecine. Il suit des études au conservatoire dans la classe d'un compositeur exigeant, Goffredo Petrassi, dont il a attendu quasiment toute la vie la reconnaissance. Et puis, il commence sa carrière à la sortie du conservatoire en devenant arrangeur, orchestrateur pour des chanteurs de variété à la RCA. Il a notamment arrangé ce titre chanté par Mina, Se Telefonando. Un titre du début des années 60, Alex Jaffray, dont vous parlez dans votre spectacle, C'est Telefonando. Pourquoi c'est si marquant en termes de composition ?
Parce que quand on écoute ça, on entend Morricone. Pour moi, Morricone, c'est d'abord la science de l'arrangement dont parlait Stéphane. C'est un arrangeur incroyable. Et c'est surtout la maîtrise du contrepoint. On a souvent eu la chance de parler de Bach avec lui, qui est le maître absolu du contrepoint. Et c'est vraiment ça. C'est-à-dire que dans cette musique, vous avez à la fois les chœurs derrière qui sont très morriconiens. Et en même temps, cette mélodie étrange en 3 notes. Mais comme on est en 4 temps, les 3 notes, elles tombent jamais au même endroit. Donc ça crée une sorte de dynamique bizarre. où on attend que le premier temps revienne. Et
les modulations successives.
Oui, voilà, ça monte, ça monte, ça monte. C'est une sorte de montée sans fin vers le ciel, avec cet aspect qui peut-être pas dans ce morceau Cité Elefando, parce que je ne sais pas s'il appelait l'au-delà, mais c'est vrai, avec souvent ce qu'il y avait dans Mission, cette musique qui... je trouve qu'il s'élève toujours. Il y a une aspiration très forte dans l'harmonie et la construction morriconienne.
Et c'est en étant... Il devient quand même un peu un orchestrateur, alors je ne sais pas si on peut dire star, mais enfin réclamé par les chanteurs à la RCA dans les années 60.
Ah oui, oui. Alors, là, précisément, ce titre pour Mina, là, il en est le compositeur et l'arrangeur. Il a les deux statuts. Il en existe d'ailleurs une très jolie adaptation française chantée par Françoise Hardy sur un texte français de Jacques Lanzmann, ce qui est assez curieux d'avoir un dépôt Jacques Lanzmann et Ennio Morricone. Mais oui, bien sûr, c'est une période qu'il adore et en même temps, il en fait vite le tour. C'est-à-dire qu'il se rend compte qu'il n'a pas d'avenir dans la variété et qu'il doit aussi subir, comme ce sera le cas plus tard pour Gabriel Yared ou Jean-Claude Petit en France, une forme de dictature de la mode qui est acceptable quand il démarre. Et puis au bout d'un moment, il sent une forme d'usure et qu'il a fait le tour de la discipline et qu'il doit passer vers autre chose. Et ce sera en 60, le début de sa relation au long cours avec le cinéma.
Parce qu'on vient le chercher, en fait.
On vient le chercher, ouais.
On vient le chercher et c'est comme ça qu'il va s'imposer d'abord pour composer des musiques de western.
Il y a un metteur en scène d'abord, donc c'est des polars et comédies, donc Luciano Salce, qui l'évoquait tout à l'heure dans l'interview, et puis Sergio Leone en 64. Mais il y a aussi beaucoup de films politiques et engagés, qui est un genre qui revendiquait énormément, un grand repère avec Pontecorvo, la bataille d'Alger, etc. En fait, il détestait qu'on le réduise dans ses jeunes années au western. Et là, pareil, c'était le mode d'emploi des interviews. Ne jamais le laisser d'abord venir en évoquant le western et Sergio Leone. Parce qu'avec Leone, il l'adorait, c'était comme des frères. Mais qu'on réduise ces 523 films à ces 6 films-là, ça fait jamais que 6 523e, quoi. Et c'était, voilà, donc fallait comme marcher sur des œufs lorsqu'on se trouvait devant lui, comme ça qu'il vous fusillait du regard si vous faisiez un pas de côté.
Après, vous l'avez un peu abordé, l'une des marques, Alex Jaffray, Stéphane Lerouge, l'une des marques de fabrique de Morricone, c'est aussi l'usage d'instruments typés. D'ailleurs, vous en faites référence avec lui, vous posez la question dans l'interview du coffret Stéphane Lerouge. C'est la gabarde, le clan des Siciliens.
Ça s'appelle les Maranzani, ce sont des gabardes siciliennes.
Voilà, et on ne rigole pas avec les guimbardes siciliennes,
jamais.
Non, ce qui est fascinant, je reviens sur le contrepoint, parce que le meilleur exemple qui soit avec le clan des Siciliens, c'est que on rentre avec un thème comme ça aux cordes, et puis il y a cette ritournelle, cet arpège guimbarde et guitare, tolé, tolé, tolé. On a l'impression que c'est ça le thème. D'ailleurs, c'est emprunté à Bach. D'ailleurs, je suis un des rares journalistes à avoir fait écouter sur mon sampleur Morricone le vrai prélude de Bach en disant: est-ce que vous êtes inspiré de ça? Donc il y a un moment de blanc où tout le monde dans la salle me regarde en disant: il va se faire virer dans 4 secondes, et Morricone fait non. Voilà, et on passe à autre chose, j'ai pas insisté. Mais en fait, vraiment, parce qu'il l'avait dit dans une autre interview. Et ce qui est fascinant, c'est que le thème du clan des Siciliens, c'est pas ce petit mouvement à la guitare, c'est le truc qui vient après. Et c'est ça, le thème est splendide. Et ce qui est génial, c'est que c'est... Vous savez, c'est le bonbon avec plusieurs couches. C'est-à-dire que Morricone est en fait un magicien. C'est-à-dire qu'il nous fait rentrer dans un morceau en disant: ah, un petit gimmick sympa, c'est rigolo. Bim, c'est pas ça. Et le truc qui vous une fois que vous êtes attrapé, c'est trop tard. La musique est rentrée en vous pour toujours.
Ouais, il l'explique magnifiquement dans le documentaire. Il parle de ce thème, effectivement. Alors lui, il dit qu'il a joué avec les lettres, avec le nom de Bach. Il avoue pas.
Ça, c'est incroyable.
Oui, mais il avoue pas vraiment l'emprunt à ce prélude. C'est vraiment, les deux premières phrases sont identiques. Et puis il dit, effectivement, il y a ce thème qu'il appelle, lui, le thème sicilien. Et en fait, Verneuil m'a raconté qu'il s'est retrouvé devant ces deux propositions et il disait: mais les deux thèmes sont forts, mais je n'arrive pas à choisir. Et que Morricone lui a dit: bon, je vais arriver, par la technique de contrepoint, à les combiner et faire que l'un, à un moment donné, devient le contrepoint de l'autre et vice versa. Et si vous écoutez le thème du casque, qui est le Verneuil suivant, 2 ans plus tard, le fonctionnement est exactement identique, c'est-à-dire deux thèmes fondus en un seul.
Les meilleurs thèmes de Ennio Morricone massacrés par Stéphane et Alex.
aussi, c'est une, un extrait mythique.
C'est quel film ?
L'extase de l'or. Le bon, la brute, le truand ?
Oui.
Et on voit dans, dans le film donc, de Giuseppe Tornatore comment il a demandé à l'interprète...
Et d'Adèle Orso.
D'improviser comme ça.
Ouais. Je ne sais pas si c'est vrai, ça me paraît quand même assez écrit.
Oui, oui, oui. Connaissant Morricone, et que, à mon avis, tu changes. Moi, on l'avait vu pendant l'enregistrement du Tarantino, de la musique du Tarantino, où il y a le clarinettiste a eu le malheur de faire une petite note à côté, mais qui était dans la gamme juste et tout. Et là, il a arrêté. Et d'ailleurs, il prenait des musiciens italiens, c'est-à-dire qu'il était à Londres pour cet enregistrement.
Donc les 8 salopards, c'est ça ?
Oui, ouais, il vient avec donc deux autobus remplis de musiciens italiens. Et tu lui dis, mais c'est quand même bizarre parce qu'il y a le LSO, le London Symphony Orchestra. Il y a des meilleurs musiciens du monde à Londres. Et dans l'interview, et Morricone fait, c'est parce que comme ça, je peux les engueuler en italien. Et ce qui a pas loupé avec ce pauvre clarinettiste qui a trébuché sur une note et qui s'est fait mais désingué. Et c'est pour ça, je pense, pour rebondir, je pense que tout était écrit. Je vois mal l'improvisation au milieu de son travail.
Ouais, mais c'est fascinant d'ailleurs de voir, il a quand même eu conscience très très vite qu'il était devenu une sorte presque de rockstar de la musique de film, et qu'il avait ce statut où il pouvait imposer ses conditions. C'est-à-dire que quand il faisait un film anglo-saxon, il disait « je veux qu'on enregistre à Rome ». C'est-à-dire que Les Incorruptibles, par exemple, ou Les Moissons du Ciel, de Terrence Malick, c'est enregistré à Rome. Et pour les studios américains, c'est un cauchemar, parce que les Américains sont hyper protectionnistes sur les musiciens. Et quand un film d'une majeure américaine, un film Warner, MGM, tout ce qu'on veut, est enregistré, la musique est enregistrée à l'extérieur des États-Unis, il faut repayer au syndicat des musiciens américains l'équivalent du budget qui était dépensé à l'étranger. Donc avoir Morricone, ça coûtait deux fois le prix. Et malgré tout, il a quand même fait une carrière américaine.
Donc il aurait été à l'aise avec Stanley Kubrick s'il avait composé pour lui. Ils avaient le même niveau d'exigence tous les deux.
Ça a failli se faire.
Oui, voilà. Cette légende
incroyable. C'est une légende ou pas ?
Mais je ne sais pas.
Ce qu'il raconte.
Ah, non, mais,
Sergio Leone, le coup de fil Kubrick-Leone.
Non, mais il y a vraiment eu... Morricone était ravi. Kubrick lui a dit « Je suis prêt à venir. Je fais la post-production à Londres, mais je viens à Rome. On enregistre à Rome puisque vous le demandez. » Et Kubrick a fait l'erreur fatale d'appeler Leone pour lui dire « Je suis ravi, ton compositeur va travailler pour moi. » Et Kubrick et Leone se disant « Ma chose, ma créature va travailler pour un cinéaste supérieur à ma condition. » Et donc, je vais saboter cette collaboration à venir. Il a dit « Non, non, mais je ne peux pas. On a le mixage, la fin de mixage de « Une fois la révolution ». On en a pour 3 mois. Donc, rappelle-le dans 3 mois. Et Kubrick ne pouvait pas attendre 3 mois. Et Morricone m'a dit « J'ai attendu. » Aucune nouvelle de Kubrick. Au bout d'un moment, il s'est dit quand même c'est mauvais signe. Puis il en parle à Leone et Leone a éclaté de rire en lui disant « Mais il ne va pas t'appeler, j'ai tout saccagé. »
Mais ça, c'était pour Orange Mécanique, c'est ça ?
C'était pour Orange Mécanique.
Mais en fait, on les compte presque, les grands réalisateurs avec qui Morricone n'a pas travaillé.
Ah, il y a Fabien Antoniante.
Blague à part. Non, mais c'est vrai, mais même...
Max Pécasse.
Non, mais blague à part. En tout cas, quasiment tous les réalisateurs italiens... De ses contemporains ont fait appel à lui.
Il y a quelques cinéastes qu'il n'a pas eu, par exemple. Il n'a pas eu Fellini. Il aurait pu travailler avec Fellini après la mort de Nino Rota. Et dans le livre d'entretien avec Alessandro De Rosa, livre qui est sorti il y a 5 ans, De Rosa le fait parler de Fellini. Et Morricone est très sévère. Il dit qu'il n'aime pas l'écriture de Nino Rota. Il dit, écoutez, Fellini le poussait tout le temps à faire des pastiches de Je cherche après Titine. Et j'ai vraiment trouvé Rota intéressant chez Fellini à partir du Casanova. Sauf que c'est l'avant-dernier film de Rota, d'ailleurs l'avant-dernière partition pour Fellini.
On a entendu là l'Extase de l'or, on a entendu Mina avant. Est-ce qu'il composait plutôt pour des voix féminines ? Je vous dis ça parce qu'en fait, on va écouter une rareté, Stéphane, que vous m'avez fait du coffret, une rareté. Mais avant de l'écouter pour une voix masculine, est-ce qu'il y avait une prédilection ? Non, il n'y avait aucun...
C'était très, très curieux. Il a vraiment trouvé une sorte de double dans cette chanteuse, et d'Adèle Orso, qui est une femme qui est une grande chanteuse de studio. Elle n'a jamais accompagné Morricone sur scène. Elle a vraiment suivi pendant des années dans cet unique studio quasiment dans lequel il a enregistré, le studio Forum. Et Morricone, était avec un peu de cruauté, a fini par, dans une interview, un jour il m'a dit « Mais je pense que j'ai adoré Eda, j'adore toujours, mais j'ai un peu abusé de son timbre. J'en ai un peu fait une marque de fabrique, comme une signature, au point qu'à un moment, c'est devenu presque trop prévisible. » Voilà. Mais en même temps, quand on entend cette femme avec cette voix, toujours ce timbre, cette soprano en lévitation, c'est aussi une façon d'indiquer clairement de stabilo-bosser la signature Morricone.
Ricordare Ricordare come un po' morire, tu adesso lo sai, perché tutto ritorna anche se non vuoi. E scordare è scordare più difficile, ora sai che è più difficile se vuoi ricominciare. Ricordare, ricordare come un tuffo in fondo al mare, ricordare, ricordare quel che c'è da cancellare, e scordare, e che perdi cose care, e scordare, finiranno gioie rare. Scordare, scordare, e che perdi cose care.
Gérard Depardieu, tout le monde aura reconnu, enfin je ne sais pas, Stéphane Le Rouge, c'est une rareté.
Oui, c'est Gérard Depardieu, période Barilla à peu près, pour situer au niveau de la chronologie de son parcours. Et Morricone adorait cette chanson. Il l'adorait parce que c'est un film un peu oublié de Tornatore, dans un registre presque métaphysique, avec Depardieu et Polanski. D'ailleurs, on aurait plus imaginé Polanski cinéaste sur un sujet pareil, et sur un homme qui a perdu la mémoire et qui en fait se retrouve dans une sorte de purgatoire symbolique. Et Morricone adorait ce travail parce qu'il avait dit « j'ai fait un travail de scénariste invisible », c'est que la musique est très abstraite, dissonante au départ, avec une espèce de concerto de violon, comme ça, sans vraie tonalité d'ailleurs. Et au fur et à mesure, le personnage de Depardieu retrouve la mémoire, la musique, le langage s'éclaircit jusqu'à finir sur cette chanson au générique de fin.
Donc une chanson qu'on entend sur l'un des deux coffrets de la collection Écoutez le cinéma. Est-ce qu'on peut considérer, on le voit d'ailleurs dans le film, que Morricone était évidemment un artiste, on le sait, mais que c'était presque un autre écrivain du film, Alex Jaffray.
Alors, on oublie souvent que le compositeur est le troisième auteur d'un film. Vous avez le scénariste, le réalisateur et le compositeur. Et comme le dit notre ami Alexandre Desplat, le compositeur, un bon compositeur de musique de film, montre l'invisible. Donc c'est exactement ce que tu disais sur la capacité de raconter une histoire qui est celle qu'on ne voit pas, parce que celle qu'on voit, c'est assez facile de mettre un coup de stabilo et de faire du Mickey Mousing, c'est-à-dire il monte dans l'escalier, plomb, 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 et ça c'est facile. En revanche, il monte dans l'escalier, il est en train de penser à la personne qui va tuer en haut de l'escalier. Là, on raconte une musique et on raconte le scénario qu'on ne voit pas. L'invisible.
Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais ce qui fait que Morricone, avec son caractère, quand même, a eu d'immenses collaborations, parce que il apportait vraiment la singularité de son regard, de sa subjectivité sur les sujets des cinéastes, et ça donnait des grands résultats. Et puis ça donnait aussi des foires d'empoigne homériques. Il avait cette phrase magnifique. Je me souviens, on avait animé avec Bono une rencontre avec lui la veille de son concert d'adieu à Paris, donc c'était fin 2018. Donc il était venu à la Cinémathèque française la veille, on avait passé une heure et demie sur scène, il était d'une humeur absolument exquise, il avait Costa Gavras en face de lui. Et je lui avais dit, je l'avais un peu branché sur le fait, je lui ai dit, par exemple, les Taviani, ils vous adoraient, et puis au bout d'un moment, ça s'est arrêté. Il dit oui, parce qu'ils sont eux-mêmes musiciens. À un moment donné, j'avais essayé, sur une scène précise de leur film Le Pré, j'avais mis une intention particulière, ils m'ont contesté un accord. Ils ne voulaient pas de cet accord-là. Et donc, je me suis dit, c'est fini, ils ont beau être très talentueux, j'arrête. Et il a ajouté malicieux, vous savez, je ne me dispute jamais avec les metteurs en scène parce que je les quitte avant.
Mais alors qu'il a une certaine souplesse quand même, parce qu'il explique sur le film d'Elio Petri, Enquête sur un citoyen.
Ouais.
Voilà, il a justement, sa musique a été contestée. Et puis, bon, après, il a son moment de gloire au moment de la première projection où le cinéaste lui dit, bah ouais, t'avais raison finalement. Il y a quand même de la souplesse, je trouve.
Alors, ça dépend, à mon avis, des cinéastes. Et ça dépend aussi, ou ça dépendait de la façon dont on lui transmettait la demande. Si on le disait, ah, peut-être, j'ai un doute, etc. Mais sinon, vous savez, on dit souvent le génie est la partie positive du déséquilibre. Je pense que Morricone était branché sur courant alternatif toute sa vie et que voilà, il y avait des questions de moments, de circonstances, de rapports humains aussi. Et...
pour ce film en particulier, Nello Petri, donc Enquête sur un citoyen ordinaire, ce qu'on voit dans le documentaire de Bios...
Enquête sur un citoyen au-dessus de tout soupçon.
Donc, Enquête sur un citoyen au-dessus de tout soupçon. Donc, ce film d'Elio Petri, ce qu'on voit dans le documentaire de Giuseppe Tornatore, on voit la même séquence avec deux musiques différentes. Et en fait, visiblement, c'est une blague que lui a fait Elio Petri ? C'est une blague ou c'est un malentendu ?
Non, je pense que Morricone avait écrit une musique originale. Et puis, le réalisateur a pris une ancienne musique, une autre musique d'un autre film de Morricone, qu'il a mis dessus en disant « Mais ça, c'est vachement mieux, regarde. » Le monteur aussi dit « Ouais, c'est génial, regarde. » Enfin, vous savez, le truc qu'on vit beaucoup en tant que compositeur, c'est-à-dire vous avez le producteur, puis le réalisateur, puis le monteur qui disent « Regarde, c'est génial, on a pris cette musique. » Et toi, tu fais « Ouais, mais moi, je peux en faire une aussi. » »« Non, mais celle-là, elle marcherait bientôt. » Là, pour le coup, c'était déjà du Morricone. Et donc, quand il a montré ça à Morricone, Morricone a dit « Mais non, ça va pas du tout et tout. » Et puis, au moment où de la première projection, avec la musique qui n'était pas la musique qu'avait composée Morricone pour le film, mais une autre musique, d'un seul coup, le réalisateur a dit « Mais non, mais je suis le roi des cons, je me mettrai des baffes, parce que, évidemment, ta musique était beaucoup mieux. » Et puis, il a remis la musique de Morricone composée pour.
Et là, effectivement, c'est super impressionnant, c'est-à-dire, c'est pas le même film.
Oui.
Parce qu'on le voit avec les deux musiques différentes, et c'est effectivement le troisième auteur du film.
Oui, en plus on voit les déambulations du personnage comme ça dans les rues italiennes. Il y a un côté d'un seul coup, il y a toujours ce côté goguenard dans la musique de Morricone. Je trouve ce qui est génial, c'est que même dans un moment très tendu, il y a un tout petit twist qui fait que on sent que ça va se passer bien, mais pas exactement comme on avait prévu. Il arrive à faire ça avec très peu de notes.
Et ça, le mélanger, combiner des sentiments contradictoires, complexes en une seule voix, et ce thème d'Enquête sur un citoyen qui est une espèce de petit tango ting. Mais qui tout de suite sonne à la fois, forcément c'est un rythme de danse, mais dans lequel il arrive à mettre quelque chose à la fois de mécanique, de névrotique et d'obsessionnel. Et tout ça cohabite. Et dans les rapports complexes avec les cinéastes, par exemple, vous faisiez aussi... vous allumiez la mèche vraiment du versant Mr. Hyde de Morricone quand vous lui parliez du professionnel, parce que pour le film de Georges Lautner, qui est un de ses faits d'armes pour nous français, mais bon, pour lui c'était un film de plus avec Belmondo, il a écrit de musique, elle a été en partie rejetée par Lautner, qui a préféré resynchroniser un thème que Morricone avait écrit 10 ans plus tôt pour un film de Jerzy Kawalerowicz. Sauf qu'ils ont fait revenir les bandes multipistes de ce thème qui s'appelle Kimaï en France, et dans le dos de Morricone, ils ont réenregistré la rythmique. Si vous écoutez la version de 71, la rythmique est très très légère avec une contrebasse, des ballets de batterie, et la version de 81, c'est une rythmique de 1981 avec les poum 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 poum. Et Morricone, ça l'insupportait, quoi. Il détestait. Il disait, mais on a fait chausser à ma musique vraiment des chaussures à semelles de plomb. Il détestait cette version-là. Et alors, on ne parle pas même de Royal Canin.
Oui, c'est ça, puisque c'est la musique qui a été utilisée pour cette publicité des années 80 de nourriture pour chiens.
Moi, j'avais Royal Rabbin avec Alain Chabat qui court dans... Vous ne souvenez pas ?
Aussi, c'est des nuls.
Voir Royal Rabbin, c'est très bien.
Donc, il pouvait y avoir des relations effectivement houleuses avec des réalisateurs. On le voit dans le documentaire avec Oliver Stone, non ? Il vous en parle dans le livret ?
Oui, alors c'était très, très curieux parce que le premier coffret, je l'ai fait, a été supervisé. J'ai tout fait valider par Morricone. C'est la dernière fois que je l'ai vu de ma vie. J'ai passé ces 4 heures chez lui. On a fait un entretien fleuve. Il avait du temps. Il voulait plus écrire pour le cinéma, sauf pour Tornatore. Il était là et donc je lui disais, je veux pas trop vous retarder. Il dit non, c'est bon, on a du temps. Bon, donc je l'ai quitté vraiment sous un souvenir positif et vraiment solaire. Et puis bon, il s'envole. Le deuxième coffret, forcément, sans lui. Et là, il faut pour nourrir le rédactionnel du coffret. Et comme j'avais inclus la musique de U-Turn, j'ai écrit à Oliver Stone. Il m'a dit d'accord, je serais ravi de pouvoir détailler ma collaboration. Et c'est très curieux parce que les Américains, quand ils témoignent d'une personnalité disparue, ont tendance à avoir des propos d'une neutralité. Enfin, tout est sans aspérité, tout est javelisé. Et là, je vois le visage d'Oliver Stone qui apparaît sur mon petit MacBook et qui me dit « Écoutez, j'ai envie de vous raconter à quel point ça a été excitant, enthousiasmant, jubilatoire de travailler avec Morricone, mais à quel point aussi ça a été infernal. Donc, je vais vous dire, je vais tout vous raconter, mais je ne veux pas qu'une fois que j'aurai validé la transcription de mes propos, il y ait un enfant ou quelqu'un de la succession d'Ennio Morricone qui dit « Ah non, ça, je ne veux pas que ce soit écrit noir sur blanc. Donc, je veux que vous me garantissiez ma liberté de parole. » Et de témoignages. Je lui dis, mais Oliver, vous dites exactement ce que vous voulez. Et c'est très rare. Et j'étais heureux que Oliver Stone raconte à quel point il se retrouve devant un génie. Mais forcément, la vocation de Stone, elle est née notamment des films de Léon, de Pontecorvo, d'Elio Petri. Et il se dit, il se retrouve devant cette statue du commandeur, il se dit, mais s'il me propose quelque chose que je n'aime pas, mais je n'aurai aucun ascendant sur lui, comment est-ce que je vais lui dire, oui, je suis désolé, mais ce n'est pas du tout la musique que j'attendais, quoi. Et finalement, ça a été comme ça un rapport complexe, simple, et en même temps où Stone, pas de maquette, il se retrouve à Rome, au pied du mur, avec Morricone qui enregistre la musique de son film. Et heureusement, ça a fonctionné. Mais ça a été un long parcours en montagne russe. Et ils m'ont dit, mon seul regret, c'est finalement qu'on n'a jamais vraiment parlé. On a eu des échanges qui étaient limités, problème de langue, de génération, de culture. Et finalement, les images de mon film, en fait, qu'il a compris mon film peut-être mieux que moi.
C'est aussi dans le documentaire de Tornatore. Alors là, il est très laudateur, Quentin Tarantino. Mais c'est pareil, il attendait de Morricone la même musique que Léon. Et Morricone n'est pas du tout allé dans cet endroit-là.
Ouais, surtout après avoir utilisé des musiques préexistantes.
Oui.
Parce qu'il a accusé combien de refus, je crois, trois ou quatre fois.
Trois ou quatre refus. Le plus gros sur Django Unchained, où là, Morricone a écrit juste une chanson. Il a envoyé la maquette à Tarantino pour savoir ce qu'il en pensait. Et Morricone m'a dit, mais cet abruti, il a utilisé la maquette sur son film, alors que je voulais ensuite l'orchestrer, faire gonfler l'orchestration derrière la voix, etc. Bon, ça finit par avoir lieu. Et Morricone est comme un défi à toutes les règles de l'Académie des Oscars, parce que c'est le seul compositeur dans l'histoire des Oscars à avoir eu d'abord un Oscar d'honneur, ce qui généralement est l'antichambre du cimetière, et ensuite avoir eu un Oscar pour une création 12 ans après.
Là, il y avait quand même. Est-ce que vous avez le sentiment, ou alors pas du tout, en tout cas en ce qui concerne la musique de film, qu'il y avait un besoin de reconnaissance? Elle a été tardive quand même, là. Enfin, en tout cas de Hollywood pour Morricone.
Je pense que pour Mission, une des vraies failles et fêlures et tristesse, il en parle d'ailleurs dans le documentaire, je pense qu'il en a parlé. Moi, je l'ai vu avec vraiment la paupière qui tremble, en disant il ne comprend pas pourquoi il n'a pas eu l'Oscar pour Mission. Il n'avait pas compris. C'est-à-dire qu'en face, il y avait Herbie Hancock avec des musiques qui reprenaient des standards qui étaient très bien. C'est quand même Herbie Hancock. Mais c'est vrai que.
Une partie de musique originale, quand même.
Oui.
Sinon, il n'aurait pas été nommé.
Bien sûr. Mais c'est vrai qu'il y avait par rapport au travail, à la compréhension. Et je pense qu'avec, on en parlait tout à l'heure, c'est cette volonté de toucher le divin avec cette musique, qui est un peu l'histoire de Mission et qui est l'histoire de la musique. Et qui peut-être quelque part aussi quelque chose qui touche, dont on parle assez peu, je pense, c'est cette croyance fondamentale de Morricone.
Une mission racontant effectivement la mission des missionnaires jésuites en Amérique du Sud.
Et il a été dévasté de ne pas avoir le. Je me souviens que j'en parlais une des dernières fois comme toi en disant mes missions, il me dit. Ah. Alors que c'était genre, je sais pas, 15 ans ou 20 ans après. Le mec n'avait toujours pas digéré quand même.
Et il y a un musicologue italien qui témoigne dans les annexes du bouquin d'Alessandro De Rosa. Et Morricone a son Oscar d'honneur, donc en 2006 ou 2007. Ou
2007,
8,
je crois.
2007. Et au bout d'un moment, ce musicologue, Sergio Micheli, dit « Morricone m'appelle en me disant « mais tu es le seul à ne pas m'avoir félicité pour mon Oscar ». Et l'autre lui dit « mais enfin, Ennio, je t'admire depuis toujours, je suis le premier à avoir analysé ta musique, dans des cours d'analyse, même au conservatoire, à avoir une approche universitaire de ton écriture. On n'a pas besoin d'attendre cet Oscar pour savoir que tu es un génie ». Il dit « oui, mais quand même, j'ai un Oscar ». Et il est tellement fier, alors qu'on pourrait se dire, après tout, il a déjà fait à l'époque 400 films, quoi.
Et puis, effectivement, ce qui lui importait, on a l'impression, en voyant le documentaire, que ce qui lui importait le plus, on l'a déjà un peu évoqué, c'est la reconnaissance de ses pairs, enfin de son mentor du conservatoire, Goffredo Petrassi. On le voit, il est ému, il a la voix qui tremble, presque à pleurer en parlant de ce mentor.
Mais c'est très curieux, parce que c'est d'ailleurs une des forces du documentaire, c'est qu'il ait pu être filmé en aussi gros plan. C'est-à-dire que moi, je n'ai jamais vu ça, combien il y a Morricone d'aussi près. Et de voir les larmes qui lui montent aux yeux quand il évoque des blessures du conservatoire. On revient à cette idée aussi de contraste social. Il est avec des condisciples qui ne sont pas du même milieu que lui. Il est un milieu modeste, avec un père trompettiste. Et il y a forcément ce choc aussi social au sein du conservatoire. Et il doit être meilleur que les autres pour prouver qu'il mérite d'être dans cette classe-là. Quoi.
Et au tout début, d'ailleurs, ce qui est terrible, c'est que son maître lui donne des arrangements, mais un peu médiocres. Tiens, un peu la monnaie du pain. Tiens, fais-moi un peu de musique comme ça. Et l'autre, il dit, mais non, mais moi, je peux faire beaucoup mieux. Il fait, non, c'est épouvantable. L'autre, je trouve dans le doc, il y a quelque chose de très poignant. Enfin, je dis certainement ça parce que j'ai perdu mon papa. Mais quand son père, ton pétis, n'est plus assez bon trompettiste et que sa mère lui dit « Mais pourquoi tu ne demandes pas à ton père de jouer ?» Et que Morricone, pour éviter de dire à son père qu'il n'est plus assez bon trompettiste, arrête d'écrire pour la trompette. Je trouve ça incroyablement touchant.
Et ce qui est encore plus beau, c'est quand il précise qu'il n'a plus jamais eu recours à des trompettistes oui. de la génération de son père.
Exactement, pour pas qu'il y ait de comparaison avec son père, pourquoi tu ne bosses pas avec moi ? Et je trouve ça incroyable. Et donc, il a fallu attendre que son père le quitte pour se remettre à écrire à la trompette. Je trouve ça très touchant de l'attachement familial et de la fidélité. Il y a quelque chose de... Je ne vais pas trouver le mot. On le remettra après, je pense.
Ouais.
Mais vous savez, je trouve que derrière le côté, le personnage, on imagine toujours qu'il va se lever pendant l'interview, se barrer en courant et en fait très dur. Je pense qu'il y a un personnage très touchant, très sensible, qui se cache derrière une immense carapace, très timide et avec une loyauté incroyable. Et c'est vrai, capable de quitter n'importe quel réalisateur en disant tu n'as pas aimé cet accord, mais j'ai mis toute ma vie dedans, et il s'en va. Dans le doc, d'ailleurs, on voit le nombre de fois où il raconte que les réalisateurs ou les producteurs le poursuivent dans le couloir. Mais Ennio, reviens, viens faire la musique. J'ai l'impression que la moitié de sa vie, ça a été Ennio qui se barre en disant non, je ne le ferai pas.
Mais moi, je suis d'accord avec toi sur le fait, je pense vraiment que cet homme s'est fabriqué un masque, une forme de protection, plutôt d'autoprotection. C'est-à-dire qu'il avait, comme s'il avait peur du monde extérieur, et s'est fabriqué ce masque d'austérité, alors que dans la vie quotidienne, avec des, ou en tout cas au milieu de gens avec lesquels il y avait une complicité, une connivence, où il se sentait en confiance, il devenait blagueur, rieur, etc. C'était quelqu'un d'autre. Il y avait, son fils d'ailleurs dit ça dans beaucoup d'interviews qu'il a faites, Marco Morricone, son fils aîné, il dit il y avait le personnage et la personne, l'homme public, l'homme privé. Et c'était pas du tout le... Quand il voyait les journalistes arriver chez son père, il voyait d'un seul coup son père, vroup, qui mettait le fameux masque en question.
Et on parlait de ce qui lui importait, la reconnaissance de ses pairs compositeurs de musique, on va dire. Alors, vous disiez absolu. On a parlé évidemment de sa musique de film, mais en fait, en parallèle, il a toujours été compositeur de musique absolu.
Ouais.
Il avait un groupe d'improvisation.
Oui, bien sûr. Il a écrit assez régulièrement. À la fin de sa vie, il disait « J'aurais dû plus consacrer de temps et aménager plus de temps à ma musique personnelle », dit-il. Moi, je pense, ce n'est que mon point de vue et je peux me tromper, je pense que finalement, quand Morricone écrivait des musiques qui étaient une affaire entre lui et lui-même, il était peut-être, finalement, il s'astreignait à respecter une forme de ligne de radicalité ou de modernité qui faisait que peut-être il était moins personnel que lorsqu'il écrivait pour le cinéma, où il était peut-être plus libre, plus libéré, tout en ayant l'astreinte de s'exprimer à travers l'univers d'un autre créateur qui est le metteur en scène. Mais finalement, il a été tout aussi personnel, sinon plus, dans ses bandes originales. Je le pense. Ça peut paraître paradoxal. Mais...
Justement, Stéphane, son opéra, ça donne quoi ? Vous le connaissez par cœur, j'imagine ?
Je connais juste le premier acte. Le deuxième acte m'a un peu déconcerté. Non, je plaisante. Non, pour moi, la grandeur de Morricone, elle est vraiment dans la musique de film. J'ai eu très, très peur, d'ailleurs, sur le premier coffret. Je lui avais donné un peu en exemple un coffret qu'on avait fait sur Michel Legrand, où il y avait des concertos pour piano et violon de Michel. Et quand il a vu que dans ce coffret Michel Legrand, il y avait des œuvres de concert de Michel, il m'a dit « Mais vous pourriez peut-être aussi consacrer 5 ou 6 rondelles de ce coffret à mes musiques de concert. » Et là, je lui dis « Ah, vous savez, Ennio, ce sera l'objet d'un deuxième coffret à part entière. » Et je m'en suis sorti comme ça.
Oui, parce que c'est vrai que dans le documentaire sur la musica assoluta dont tu parles, c'est vrai qu'il y a quand même des moments avec toute c'est même pas de l'affection, l'amour que j'ai pour Morricone, où il est avec son groupe d'improvisation et qu'ils prennent des instruments et qu'ils utilisent des instruments de façon à ne surtout pas faire le son habituel d'une trompette ou de n'importe quelle clarinette ou batterie. Et là, c'est vrai que les 40 premières minutes, tu demandes ça démarre. Est-ce que ça a déjà commencé? Enfin, avec beaucoup de respect pour cette musique, c'est très très abstrait, quoi.
Mais ça lui a servi en même temps.
Bien sûr.
Par exemple, dans Il était une fois dans l'Ouest, avec tout ce début muel.
Chez Argento, dans les gialli, évidemment, ça lui a servi. Il y a une forme, il y a un genre de cinéma, notamment le cinéma fantastique ou le giallo, qui lui ont permis de se rapprocher de ce qu'il écrivait par ailleurs pour le concert. Et il m'a dit, parce que dans le premier coffret, on avait fait justement un CD sur le cinéma de genre, il m'a dit, à un moment donné, son premier violon, qui s'appelait Franco Tamponi à l'époque, qui était aussi parfois son chef sur certaines partitions, lui a dit « Ennio, tu devrais quand même ne pas délaisser complètement la tonalité et la mélodie, parce que sinon les metteurs en scène ne vont plus t'appeler. » Et Morricone m'a dit, et quand il m'a dit ça, j'ai réentendu ma mère, quand je faisais des premiers travaux, un peu des morceaux de fin d'année au conservatoire, et sa propre mère, Madame Morricone mère, lui disait, tu sais, simplifie quand même ton écriture, sinon les gens ne vont pas te comprendre. Et il a entendu la voix de sa mère derrière la réflexion que lui faisait son premier violon, et donc il a un tout petit peu quand même, il s'est un peu déradicalisé sur le film d'après.
Ce qui est drôle, c'est qu'il a écouté après, dans un second temps, la voix de Maria, sa femme, où il lui faisait écouter, c'était vraiment le crash test des musiques d'Ennio Morricone. C'est Maria, il fait, non, trop compliqué ou pas, c'est génial. Et je trouve ça à la fois touchant, je reviens sur la loyauté, l'amour et la famille. C'est ma phrase du jour. Je suis très sur la famille aujourd'hui.
Donc Morricone, hein, l'égal d'un Bach ou d'un Beethoven. En tout cas, le documentaire, voilà, on reconnaît du Morricone à la première mesure.
Ben bien sûr, on reconnaît. C'est comme formidable que ce que disait Damien Chazelle, qui a trois, le metteur en scène américain, qui a trois vénérations, qui sont Morricone, Le Grand et John Williams. Et il disait, il y a un son Morricone, il y a un son John Williams, il y a un son Michel Legrand. Quel que soit l'univers, quel que soit le film, et quel que soit l'esthétique du film, quel que soit le genre du film, et quel que soit le metteur en scène.
Merci Stéphane Lerouge, merci Alex Jaffray. Et oui, déjà, mais je vous dis, il faudra
non.
En fait.
Voilà. Mais on reprend après la pause ou voilà. Pas parce que là, c'était...
Mais on n'a pas parlé de Borne 2. Que se passe-t-il, Sophie, Elisabeth, je suis un peu déçue, moi.
Stéphane, donc deux coffrets Morricone à découvrir dans la collection Écoutez le cinéma chez Universal. Et donc ce film Ennio de Giuseppe Tornatore à découvrir en salle. Et puis donc. À voir, mais je crois que c'est à partir de janvier 2023, Alex Jaffray sur scène.
Oui, une grande tournée un peu partout. Et puis à Paris, voilà, à la Cigale, le 6 janvier. Et il y aura de la musique à la fin, parce qu'il ne faut quand même pas déconner. Voilà.
Et c'est avec la belle musique de Mission que nous nous quittons. Ah. Tous les cinémas du monde, c'est fini pour aujourd'hui. Au micro, Elisabeth Le Quéré.
Et Sophie Torlotin, à la réalisation Fanny Renard.
Tout cet été, vous pourrez écouter à cette même heure les lectures RFI d'Avignon. Ça va le monde. Et nous vous retrouverons à la rentrée le 10 septembre. D'ici là, bel été à tous.
Cinéma du monde sur RFI.